Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes, le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le journal et on commence avec les titres. Le ministre Susi veut que la réforme de la pêche continue d'être préservée. L'association des chavans de la marine veut bien commercer avec l'Indonésie et Timor oriental. Le vice-président Yusuf Kalla reçoit le ministre sud-coréen des Affaires étrangères pour discuter de l'amélioration du commerce. Le ministère indonésien du commerce facilite les PME avec ASIS. Le ministre de coordination des Affaires économiques dirige la délégation à l'Union européenne pour discuter de la discrimination du palmier à huile. La Chine est intéressée au financement du programme de rajeunissement de l'huile de palme en Indonésie. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires maritimes et de la pêche, Madame Susi Pujiastuti, souhaite que divers résultats des politiques de réforme du secteur maritime et de la pêche publiés par le ministère des Affaires maritimes et de la pêche continuent d'être préservés par divers groupes de personnes. Le ministre Susi Pujiastuti a déclaré mardi à Jakarta que de nombreuses réformes avaient été menées dans le secteur maritime, notamment de la part du ministre des Affaires maritimes et de la pêche. Selon elle, diverses réformes qui ont été menées, entre autres, le naufrage de navires de pêche de divers pays qui ont fait des activités de pêche illégale. Elle a affirmé que le naufrage de navires a résolu les problèmes de la nation liés à la pêche illégale dans les eaux nationales et était conforme à la vision de l'Indonésie de devenir l'axe maritime mondial. L'Association indonésienne des spécialistes des sciences de la mer, ou ISKINDO, souhaite que le commerce dans le secteur maritime et de la pêche entre l'Indonésie et Timor oriental soit bien organisé pour améliorer le bien-être des pêcheurs. Le président de ISKINDO, Muhammad Zulfikar Muhtar, a déclaré dans un communiqué de presse reçu à Jakarta mardi que les activités de pêche à la frontière entre l'Indonésie et Timor-Leste devaient être bien organisées parce que les deux pays ont une longue relation culturelle. Les relations historiques dans le passé et la proximité de la géographie d'aujourd'hui ne devraient pas entraver les activités de commerce de la pêche s'ils sont appliquées légalement. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a reçu lundi la visite de courtoisie du ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha. Au cours de sa visite, l'Indonésie et la Corée du Sud ont convenu d'améliorer le partenariat entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'économie et du commerce. Après avoir accompagné Yusuf Kalla, le ministre indonésien des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, a déclaré que les deux pays ciblaient la valeur d'investissement de 30 milliards de dollars américains jusqu'en 2022. Cette valeur est plus élevée à la valeur de la coopération actuelle de 20 milliards de dollars américains. Le ministre Retno a déclaré que cette réunion faisait également partie de la mise en œuvre des relations spéciales du partenariat stratégique entre l'Indonésie et la Corée du Sud et à cette réunion, ils ont également discuté de la coopération dans les domaines de l'éducation, de l'économie créative et de la coopération des entreprises de l'industrie du divertissement en Corée. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Les petites et moyennes entreprises indonésiennes peuvent utiliser de nouveaux appareils en ligne, solutions ASEAN pour les investissements, les services et le commerce ou ASIS pour exprimer leurs problèmes lorsqu'ils font des affaires dans la région de l'ASEAN. L'installation en ligne ASIS a été développée avec le soutien de l'Union européenne. Après l'événement de Utrecht le mardi 9 avril 2019 à Jakarta, le haut fonctionnaire du ministère indonésien du commerce, M. Iskandar Panjaitan, a déclaré que l'organisation a permis aux entrepreneurs indonésiens d'en savoir plus sur les politiques de commerce extérieur, notamment dans l'ASEAN. ASIS est un service en ligne gratuit développé par l'ASEAN et soutenu financièrement par l'Union européenne dans le cadre du programme ARIS Plus. Cela permet aux propriétaires d'entreprises de se plaindre en ligne avec les pays membres de l'ASEAN lorsqu'ils font face aux problèmes d'exportation. L'Union européenne encourage également les entreprises indonésiennes à tirer pleinement parti du service en ligne gratuit. Le ministre de la Coordination des Affaires économiques, M. Darmin Nasution, dirige actuellement la délégation indonésienne de visiter officiellement au siège de l'Union européenne à Bruxelles, en Belgique, pour discuter du problème de la discrimination sur les produits de palmier à huile. Le communiqué de presse du ministère chargé de la Coordination des Affaires économiques reçu lundi à Jakarta a indiqué que cette visite était le cadre de la mission commune pour les pays producteurs de palmier à huile regroupés au forum du Conseil de production de l'huile de palme. Cette visite est une réponse aux politiques de l'Union européenne qui classe les produits de l'huile de palme dans la catégorie des biocarburants non durables et à haut risque. Cette politique discriminatoire a été adoptée par la Commission européenne le 13 mars 2019 dans la régulation dérivée ou l'acte délégué de la politique directrice sur les énergies renouvelables, DOU ou RED DOU. Au cours de cette visite de 2 jours, la délégation tiendra des réunions avec des commissions, des parlements, des conseils européens et des parties prenantes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie du palmier à huile dans l'Union européenne. L'agent 3 chargé de la coordination des infrastructures du ministère de la coordination des maritimes, M. Ridwan Jamaluddin, a déclaré que la Chine était intéressée au financement de programmes de replantation de palmiers à huile en Indonésie. Ridwan à Jakarta récemment a déclaré que les intérêts de la Chine seraient discutés lors d'une réunion en Chine dans le cadre des initiatives mondiales de la ceinture de protection maritime et de la route. Ridwan a déclaré que le ministère de la coordination maritime avait tenu une réunion avec le ministère de la coordination des affaires économiques, l'agent de gestion du fonds de la plantation de palmiers à huile à la Banque d'Indonésie et à l'autorité des services financiers ou OJK au sujet de cette offre de la Chine. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé La dernière voix de Theresa pourrait remporter les règles politiques relatives au Brexit. Après avoir perdu le soutien du Parlement concernant son accord avec l'Union européenne, la première ministre britannique Theresa May s'est efforcée de trouver un moyen de sortie en approchant les dirigeants allemands et français. Le mercredi 10 avril 2019, Theresa May, qui n'a plus réussi à obtenir le soutien de son parti, essayait de discuter avec le premier ministre de l'Allemagne et le président de la France. Le bureau du président à Paris a confirmé que Emmanuel Macron était disposé à rencontrer Theresa May. Auparavant à Berlin, le premier ministre britannique, qui avait perdu son soutien au Parlement britannique, a rencontré Andrea Merkel. Le porte-parole de Merkel, Stephen Seibert, a déclaré que les deux premiers ministres ont échangé leurs idées sur la possibilité de l'éventualité d'une échéance au Royaume-Uni pour la sortie du Brexit. Theresa May a demandé à son homologue allemande, Merkel, pour qu'elle puisse convaincre les dirigeants européens d'accorder une prolongation du délai initialement fixé au 12 avril. Comprenez-vous, la même demande sera également présentée par Theresa May lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron à Paris. De Berlin, il y a des informations que l'Allemagne a demandé à la Grande-Bretagne de montrer des progrès substantiels vers la solution de l'impasse politique dans le pays. Avant de rencontrer Merkel et Macron jusqu'à la fin de la réunion à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne ont souligné qu'ils ne prolongeront pas le délai à la Grande-Bretagne sans un programme clair du gouvernement ou du Parlement. Jusqu'à présent, Theresa May a perdu son soutien au Parlement, y compris le parti qu'elle dirige. Dans cette situation, Theresa May doit faire de son mieux pour convaincre le président français et le chancelier allemand que, chez lui, elle sera en mesure de trouver une solution pour mettre fin à l'impasse politique. Mais il y a les informations du bureau du chancelier allemand que l'Allemagne n'a pas encore obtenu des éclaircissements sur les mesures de fond qui seraient prises par Theresa May dans son pays. Si finalement le dirigeant de l'Union européenne décide de ne pas prolonger le délai pour la libération officielle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne le 12 avril sans aucun accord. L'Union européenne a précédemment accepté de prolonger le délai imparti à la Grande-Bretagne pour sortir du Brexit. Theresa May n'a eu que 2 jours avant le 14 avril, avant la tenue d'un sommet par les dirigeants européens, pour décider du sort de la Grande-Bretagne. C'est une très courte période qui déterminera l'avenir du Brexit et aussi la carrière politique de Theresa May en tant que Premier ministre de l'Angleterre. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement l'assassinat d'Emiliano Zapata, le chef révolution mexicaine, le 10 avril 1919. Le 18 février 1913, le président Madero a été renversé par Victoriano Huerta, qui a ensuite assisté le mouvement du peuple pour l'acquisition de terres dirigé par Zapata. La pression de Huerta a fait l'augmentation du soutien à Zapata et dans le nord, il y a aussi le mouvement des partisans de Pancho Villa, dirigé par Pancho Villa contre la politique de terre brûlée Huerta. Le 10 avril 1919, le colonel Jesús Guajardo a invité Zapata pour rencontrer et déclarer l'intention de rejoindre les révolutionnaires. Zapata a répondu à l'invitation, mais en fait, Guajardo a piégé Zapata et il a été tué le 10 avril 1919. L'autre information est sur les troupes françaises qui quittent le Liban le 10 avril 1946. Le 10 avril 1946, les dernières troupes françaises quittent le Liban. La France a occupé le Liban et la Syrie en 1918 après la fin de la Première Guerre mondiale et la fracture de la zone sous le califat ottoman Turquie. Mais lorsque de la Seconde Guerre mondiale et la France était occupée par les Allemands, le pouvoir sur le Liban a changé de main en Allemagne. Écrasé dans un arbre en 1941, la lutte du peuple libanais pour l'indépendance a réussi en 1945. En 1945, le Liban a proclamé son indépendance, bien que les troupes françaises sont encore retranchées dans la région. diverses négociations diplomatiques entre les dirigeants du Liban et le gouvernement français ont produit l'accord sur la sortie de l'armée d'occupation en 1946. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement, l'avion du président polonais écrasé en Russie, tuant 132 passagers, y compris le président de la Pologne, le 10 avril 2010. Le 10 avril 2010, l'avion Tupolev Tu-154M transportant le président polonais Lech Kaczynski, les membres du gouvernement polonais et le conseil législatif, ainsi que le commandant des forces armées polonaises, écrasé près de l'aéroport Smolensk Nord, tuant tous les passagers. Quelques heures après l'accident, des informations détaillées sur la cause de l'accident sont encore peu claires. Certains médias ont rapporté que le Tu-154 a écrasé un arbre. Serviteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan bualan cinta di masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Bila kini nyatanya engkau memilih dia, takkan lagi ku sebodoh ini larut di dalam angan, angan tanpa tujuan.
Chers auditeurs, c'était la première chanson intitulée Sewindu, chantée par Toulouse. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie intitulé La production des chansons indonésiennes se classe au 4e rang mondial. Chers amis de l'antenne, nous continuons notre programme avec mon Indonésie et pour le titre, la production des chansons indonésiennes se classe au 4e rang mondial. La production des chansons indonésiennes se classe au 4e rang mondial après la Chine, l'Inde et le Vietnam. Avec une production totale d'1,4 milliard de paires de chansons en 2018, l'Indonésie représente 4,6% de la production totale mondiale de chansons. En outre, l'Indonésie devient le 4e plus grand consommateur de chansons, avec 886 millions de paires de chansons. C'est ce qu'a déclaré la directrice générale des petites et moyennes entreprises du ministère du Commerce, Gati Wibawaningsih, dans son communiqué de presse reçu à Jakarta récemment. Gati a ajouté que l'Indonésie comptait actuellement plus de 18 000 unités d'affaires. La plupart d'entre eux sont constitués de petites entreprises. En outre, 441 d'entre elles sont des moyennes entreprises, alors que 155 autres sont de grandes entreprises. Des milliers de ces entreprises de chaussures ont absorbé plus de 795 000 travailleurs. Gati Wibawaningsih a expliqué que le ministère de l'Industrie offre aux jeunes générations la possibilité de participer au concours indonésien des chaussures 2019 ou IFWC 2019 afin de soutenir le développement de l'industrie des chaussures indonésiennes, en particulier des petites et moyennes entreprises. Elle a expliqué que le concours créatif des chaussures Indonésie 2019 est une activité qui porte le concept de 3 en 1 du concours des chaussures créatives comprenant le design, la photographie, la vidéographie. Le concours est lancé par l'Agence indonésienne de développement d'industrie des chaussures, PPIP, basé à Sidoarjo, dans l'est de Java, qui fait partie d'une unité de travail sous la direction générale des petites, moyennes et diverses entreprises du ministère du Commerce indonésien. Le BPIP a la tâche de développer et de promouvoir l'industrie des chaussures indonésiennes. Gati a souligné que le BPIP est axé sur l'amélioration des ressources humaines de l'industrie des chaussures indonésiennes, sur l'avancement des connaissances et de la technologie dans l'industrie des chaussures, ainsi que sur la standardisation des produits des chaussures. L'IFWC 2019 sera organisé par le BPIP en collaboration avec l'Université chrétienne Petra Surabaya. Selon elle, les jeunes générations ont toujours aimé canaliser leurs idées créatives par le biais de la conception et de la visualisation de produits en tant qu'activité commerciale ou simplement comme passe-temps. Par conséquent, par le biais de l'IFWC 2019, BPIP souhaite aider les jeunes générations à explorer davantage l'industrie des chaussures et à les convaincre de l'importance de l'industrie des chaussures dans le développement de la mode. Ce qui est plus important encore, dans le cadre de cet événement, BPIP voudrait également encourager les jeunes générations à tirer parti des possibilités offertes par l'industrie des chaussures pour créer de futures entreprises. Gati Wibawaningsih a remercié le gouvernement de Java East pour sa contribution à la promotion active du développement d'industrie de la création par le biais du Centre d'emploi du millénaire. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Akan akrobat dengan hidung merah tomat. Jangan sampai terlambat, kostumku siap, hati-hati kau terpikat. Oh, bercinta dengan singa terlatih, bersepeda roda satu, menari-menari di atas tali. Jatuh, tak takut jatuh. Aku Wajahku tertutup make up, kempas tubuhmu akan aku tangkap. Hairmu membuatku lengkap, namun rasaku padamu takkan pernah terungkap. Tak apa asal kau tertawa. Musikku
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Balada Circus chantée par Yura. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique du magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Manggarai West à Nusa Tenggara Est pour introduire la belle grotte Batu Cermin. Donc, restez toujours avec nous. Le service mondial de Radio Republik Indonesia, La Voix d'Indonésie. La grotte Batu Cermin qui se trouve au village Wesambi, Manggarai West, Nusa Tenggara Est, se situe 4 km de Labuan Bajo, la capitale de Manggarai West. Cette grotte était trouvée par Theodore Verhoeven, un prêtre hollandais qui est aussi un archéologue, en 1951. Ce site touristique de 19 hectares avec la hauteur de la grotte d'environ 75 mètres est habituellement bondé pendant la journée. Au moment de l'entrée de la grotte au long de 200 mètres, vous vous sentirez votre corps est flanqué des falaises et de la mauvaise lumière du soleil. Plus vous entrez dans la grotte, vous vous sentirez l'air devient plus frais et moins de lumière que vous gagnerez. Verhoeven a conclu que cette grotte était autrefois sous la mer. Il est basé sur la découverte de fossilisés de coraux et créatures marines sur le mur de la grotte. Le plus visible est un fossile de tortue dans la paroi de la grotte. Si vous êtes curieux de voir ce qui est dit Verhoeven, vous devez entrer le trou qui peut être tout simplement entré par une seule personne et ne peut pas être passé par l'autre. Avant d'entrer dans la grotte, vous serez généralement équipé d'une lampe de poche par un guide touristique. En effet, la grotte Batu Cermin est très sombre et étroite. Pour entrer dans cette grotte, vous devez regarder vers le bas, si nécessaire, ramper à cause de stalactites qui sont au-dessous de la grotte. Pour être capable de voir la tortue fossile sur le mur de cette grotte, vous devez marcher environ 20 mètres. Parce que c'est étroite et l'air est limité. Les touristes qui sont entrés dans la grotte sont limités. Par exemple, 10 personnes d'abord et les autres attendent à l'extérieur pendant environ 30 minutes. À l'intérieur de la grotte, c'est répondu sur les tortues fossiles et pourquoi il a été nommé la grotte Batu Cermin. La grotte est nommée Batu Cermin parce que dans la grotte, il y a un trou dans le haut, de sorte que pendant la journée, le soleil peut entrer dans la grotte à travers la fente étroite. Quand il pleut, l'eau de pluie va entrer dans la grotte et causer les inondations. L'eau stagnante qui est exposée au soleil vous permettra de voir votre propre visage dans un flaque d'eau qui a inondé la grotte. Voilà pourquoi cette grotte est appelée la grotte Batu Cermin. Ce n'est pas difficile d'atteindre la grotte, on a besoin moins de 30 minutes. De l'avant du port de Labuan Bajo, vous pouvez utiliser le transport public ou à vélo. Ce transport ne pouvait vous transporter jusqu'à l'allée de cette zone, après que vous devez marcher environ 10 à 15 minutes pour poster des informations de la grotte Batu Cermin. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant à la même heure et même fréquence. Merci de votre fidélité. À demain.
Voice of Indonesia.
Jadikanlah cinta padaku, meski dirinya. untukku. Jadikanlah cinta padaku, meski dirinya belum bisa melupakan, melupakan kekasih yang dulu, yang dulu pernah isi hatinya. Namun aku takkan peduli, yang penting dia mulai tahu, sungguh aku mengharapkan cinta.
Sergitor, setelah sang song The Cinq Romeo ang titulé dengan ku lebih indah, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Pour l'arbitre suivant, voici donc apprendre l'indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Berapa lama? Je répète, Berapa lama? En français, combien de temps? Bonne étude! Je vais vous donner un exemple de conversation en bahasa indonésien entre Joko et Tony, dont le titre est Berapa lama? Berapa lama? En français, combien de temps? Joko et Tony sont à la zone du temple de Prambanan. Ils parlent de plan de Tony à Jogja.
Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja?
Seminggu.
Oh, hanya sebentar.
Iya.
Comme d'habitude, après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Berapa lama? Berapa lama? En français, combien de temps? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Berapa lama? Berapa lama? En français, combien de temps? Akan tinggal? Akan tinggal, en français, restera. Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? En français, combien de temps tu resteras à Jogja? Seminggu. Seminggu, en français, une semaine. Hanya sebentar. Hanya sebentar. En français, juste un instant. Pour demander la durée, en général, utilisez le mot de question berapa lama, qui signifie pour combien de temps. Par exemple, berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja? Qui signifie pour combien de temps tu resteras à Jogja? Et vous pouvez demander spécifiquement en utilisant l'unité de temps comme berapa jam. Berapa jam, en français, combien d'heures? Berapa minggu? Berapa minggu, en français, combien de semaines? Berapa tahun? Berapa tahun, en français, combien d'années? Par exemple, berapa tahun kamu tinggal di London? Berapa tahun kamu tinggal di London? En français, pour combien de temps tu resteras à Londres? Dua tahun. Dua tahun. En français, deux ans. L'autre exemple. Berapa minggu kamu akan tinggal di Jogja? Berapa minggu kamu akan tinggal di Jogja? En français, pour combien de semaines tu resteras à Jogja? Seminggu. Seminggu. En français, une semaine. Seminggu signifie satu minggu. En français, une semaine. Si on dit sehari, sebulan, ou setahun, cela veut dire satu hari ou un jour, satu bulan, un mois, satu tahun, une année. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Berapa lama kamu akan tinggal di Jogja?
Seminggu.
Oh, hanya sebentar.
Iya.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.
Ungkap semua.
Chers auditeurs, c'était la chanson du groupe musical Warna intitulée Rindu Ini. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia avec le magazine musical. Aujourd'hui, va vous présenter la chanson de Kalimantan de l'Est intitulée Nasi Bekepor. Nasi Bekepor ou Leri Bekepor, le titre de cette chanson, est un aliment typique du Kutai et du Kalimantan de l'Est. Dans les paroles de la chanson, on a expliqué que le riz Bekepor est un riz avec des légumes à la citrouille, des feuilles de moutarde, des aubergines, du poisson chat ou du poisson noir. Le riz Bekepor est plus délicieux lorsque vous le mangez avec une sauce aux arachides. Le meilleur moment pour manger de nasi Bekepor est de déjeuner ensemble avec votre famille. Historiquement, le riz Bekepor est un aliment typique de Kutai Kartanegara. Mais dans le passé, seul le roi de Kutai qui peut manger ce repas. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion de manger de riz, écoutez d'abord la chanson intitulée Nasi Bekepor, chantée par Nadira Arisanti. Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Jalan di kota raja, Kutai Kartanegara.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!